chemin de vie. Comme chaque jour, du lundi au vendredi, nous vous proposons la rubrique chemin de vie. C'est Jacques Yosti qui explore la Bible d'un bout à l'autre et par là même nous la fait mieux comprendre. Au micro Heidi,
ainsi que Jean et Daniel à la technique. Aujourd'hui, vendredi, Jacques va développer un thème un peu particulier. Jérusalem étant maintenant le sanctuaire central, les gens au service du temple deviennent trop peu nombreux.
En effet, le roi David entreprend le dénombrement des sacrificateurs, des musiciens, des portiers du temple, des intendants et même des chefs d'armée. Mais avant l'intervention de Jacques Yosti, écoutons ce chant « J'aime entendre ».
Si la plupart des êtres humains naissent et meurent en ne laissant que peu de traces de leur passage sur Terre, il en est par contre qui quittent cette vie après avoir fortement marqué leur temps. En fait, leurs accomplissements ont des répercussions qui, comme une onde de choc, se propagent longtemps après leur départ. Ce fut le cas du roi David qui a laissé une forte impression sur la nation d'Israël et l'inconscient collectif juif. Je commence à lire le chapitre 24 du premier livre des Chroniques en compressant tout au long. Éléazar et Ithamar, descendants d'Aaron, avaient exercé les fonctions sacerdotales. David les répartit en diverses classes suivant les services dont ils étaient chargés. Versets 1 à 3. Tout comme il avait fait avec les Lévites, David divise les prêtres descendants d'Aaron en 24 groupes. Chacun officiait pendant 2 semaines. Les noms des groupes 1, 2, 4, 9 et 24 ont été retrouvés dans une grotte de Qumran, là où furent découverts les fameux manuscrits de la Mer Morte. Je continue. Les descendants d'Éléazar furent répartis en 16 chefs de groupe familial et ceux d'Ithamar en 8 chefs de groupe familial. La répartition des uns et des autres se fit par tirage au sort. Versets 4 à 5. Le tirage au sort avait pour but d'éviter toute rivalité et contestation concernant l'ordre de succession des groupes dans le sanctuaire. Avant de quitter cette terre, le roi a tout organisé pour la construction du temple et l'organisation du culte parce que ce projet lui tenait très à cœur. C'est pourquoi, même s'il n'a pas lui-même dirigé la construction proprement dite, ce temple est davantage celui de David que de son fils Salomon. La suite du texte est une généalogie des Lévites. Je finis le chapitre. Eux aussi, comme leurs frères, les descendants d'Aaron, recoururent au tirage au sort en présence du roi David, des grands prêtres Tsadok, Ahimelech et des chefs des groupes familiaux, des prêtres et des Lévites. Ainsi, les groupes familiaux étaient tous sur le même plan. Verset 31. Les tirages au sort avaient pour but d'éviter les jalousies, un sentiment très humain qui peut prendre naissance aussi facilement qu'un feu de forêt. Le chapitre 25, le suivant, donne l'organisation des chanteurs qui fut mise en place avant même la construction du temple. Je commence à lire en compressant tout au long. David assistait des chefs du corps, des fonctionnaires du culte, détacha certains descendants d'Azaph, d'Eman et de Yedutun qui chantaient des cantiques inspirés en s'accompagnant de lyres, de luttes et de cymbales. Verset 1. Dans plusieurs passages du livre des Chroniques, des officiants du culte sont reconnus comme des prophètes qui chantent des paroles inspirées de Dieu. Depuis tout jeune, David avait un don et un grand intérêt pour la musique et le chant cultuel, les cantiques en somme. Je cite en exemple un passage de l'un de ses psaumes chantés. « Or, ton Dieu a décidé de t'accorder de la force pour affermir ce que tu as fait pour nous. Du haut de ton sanctuaire dominant Jérusalem, tu recevras les présents que t'apporteront les rois. » Fin de citation. La suite du texte donne une liste de chanteurs. Les noms de la plupart d'entre eux ont une signification. C'est ainsi qu'il y a une succession de 9 noms qui forment ensemble une phrase faite d'expressions de louange qui pourrait être traduite par « Fais-moi grâce, Seigneur, fais-moi grâce, tu es mon Dieu, j'ai élevé et j'ai magnifié ton aide, assis dans la détresse j'ai parlé, donne abondamment des révélations. » Fin de citation. Je continue le texte plus loin. Ils chantaient tous sous la direction de leur père dans le temple de l'Éternel en s'accompagnant des cymbales, des luttes et des lyres, et accomplissaient ainsi leur service pour le temple. Ils étaient sous la direction du roi. Le nombre des Lévites formés et passés maîtres dans l'art de louer l'Éternel par le chant était de 288. Leur ordre de service fut déterminé par tirage au sort sans faire de différence entre ceux de rang élevé et ceux de rang peu important ou entre maître et disciple. Versets 6 à 8. les chanteurs étaient, eux aussi, divisés en 24 groupes. Chacun comprenait un maître pour 11 disciples. Le chapitre 26, le suivant, donne l'organisation des portiers, ceux qui étaient chargés de l'entretien et de la garde des locaux du temple. Leur liste est particulièrement grande. Eux aussi étaient divisés à peu près de la même manière que les autres lévites. Je commence à lire en compressant tout au long. Voici quelle était la répartition des portiers en classe. Obed et Dom eut 8 fils, car Dieu l'avait béni. Shemaïa, l'aîné, eut des fils qui jouissaient d'une grande autorité dans leur groupe familial, des hommes de valeur qui furent particulièrement capables. Tels étaient les descendants d'Obed et Dom. Eux, leurs fils et les hommes de leur parenté, au nombre de 62, étaient des personnes de valeur accomplissant leur travail avec énergie. Versets 1 à 8. Les premiers 8 versets parlent de la descendance d'Obed et Dom. C'est lui qui avait pris soin du coffre de l'Alliance déposé dans sa maison après la première tentative ratée par David de l'amener à Jérusalem. Je rappelle le passage. David ne transporta pas le coffre chez lui dans la cité de David, mais il le fit déposer dans la maison d'Obed et Dom. Le coffre y resta 3 mois, et l'Éternel bénit la famille d'Obed et Dom et tous ses biens. Fin de citation. Cet Israélite a été béni par l'Éternel de A à Z, et tous ses nombreux enfants ont bien tourné. C'est remarquable, surtout de nos jours où la plupart des familles partent en déconfiture, avec en sus une multiplication des voyous. Comme ce brave homme, moi aussi, je désire recevoir la bénédiction de Dieu parce que, comme le dit si bien un proverbe de l'Ancien Testament, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Fin de citation. Cela veut dire que si la chance, ou plutôt si Dieu me sourit, je n'aurai pas besoin de me lever tôt matin et me coucher tard le soir pour m'en sortir. Les circonstances s'arrangeront à mon avantage. Je continue le texte plus loin. Toutes ces classes de portiers, les chefs comme les autres, accomplissaient leur service dans le temple de l'Éternel. Ils tirèrent au sort pour la responsabilité de chaque porte entre les différents groupes familiaux. La porte sud échut à Obed et Dom, et la responsabilité des entrepôts revint à ses fils. Versets 12 à 15. Tout comme les prêtres, les lévites et les chanteurs, les portiers étaient eux aussi répartis en 24 groupes et leurs tâches spécifiques tirées au sort. Comme le palais royal était situé au sud du temple, le roi entrait dans le sanctuaire par ce côté-ci. La garde de cette porte était donc particulièrement honorifique. Et bien sûr, c'est encore Obed et Dom qui a tiré le gros lot. La bénédiction de l'Éternel sur lui n'en finit décidément plus. Je continue plus loin. D'autres lévites étaient préposés au trésor du temple et au trésor des objets sacrés. Ils avaient la responsabilité des trésors du temple de l'Éternel, tout ce qu'avait consacré le roi David, les chefs de groupe familial, les chefs des milliers et des centaines, et les chefs de l'armée. Versets 20 à 26. Les lévites préposés au trésor avaient la charge de tous les butins de guerre qui allaient être utilisés pour la construction du temple. Je finis le chapitre en réduisant le texte. Kenaniaou et ses fils étaient chargés des affaires publiques en Israël à titre d'administrateur et de juge. Hashabiaou et les membres de sa parenté, c'est-à-dire 1700 hommes de valeur, supervisait l'administration d'Israël à l'ouest du Jourdain pour toutes les affaires religieuses et civiles. Il y avait dans la parenté de Yeriya 2700 chefs de famille, des hommes vaillants. Le roi David leur confia l'administration de toutes les affaires religieuses et civiles des tribus de Ruben et de Gad et de la demi-tribu de Manassé. Versets 27 à 32. Ces deux tribus et demie étaient situées à l'est du Jourdain. David s'assure donc que tous les besoins de la population sont satisfaits des deux côtés du fleuve. Les Lévites, chargés des affaires publiques, de l'administration et de la justice, n'avaient rien à voir avec ceux qui étaient attachés au temple. Mais il n'empêche que les affaires, autant civiles que religieuses, étaient confiées à des Lévites, la tribu expressément chargée de tout ce qui concerne le culte. L'Éternel étant le Seigneur de son peuple, il a autorité dans tous les domaines. En Israël, à cette époque, il n'y avait pas de séparation entre le culte et l'État proprement dit. Sous l'autorité de David, la nation fonctionnait effectivement comme une théocratie. Le temple était au centre de toutes les activités du pays, les prêtres recevaient leurs ordres directement de Dieu et le roi jouait le rôle de régent, en quelque sorte. Après la conquête du pays de Canaan, la jeune nation avait déjà été organisée un peu de la même manière, avec les Lévites répartis dans l'ensemble du territoire, assurant l'administration et la justice. Mais ce modèle avait échoué à cause de l'attitude rebelle des Israélites. Alors l'Éternel leur suscita des juges, mais ça n'a pas marché non plus pour la même raison. Ensuite, le peuple demanda un roi et Dieu leur donna Saül. Mais il se révéla un souverain lamentable. Alors il fut rejeté par l'Éternel, qui choisit à sa place David, parce qu'il était un homme selon son cœur. Preuve en est, ce roi désire vraiment que l'Éternel lui-même règne sur Israël. Nous arrivons au chapitre 27, qui donne les noms des chefs d'armée et de ceux qui avaient à charge l'intendance du roi David. Je commence à lire. Voici la liste des Israélites, chefs de groupe familial, qui furent les commandants des milliers ou des centaines et les administrateurs qui assistaient le roi pour tout ce qui concernait les divisions militaires appelées tour à tour à prendre mensuellement leur service. Chaque division comptait 24 milliers d'hommes. Verset 1. Chaque mois de l'année, une division armée différente était de service. Chacune était commandée par un des hommes qui figurent dans la liste des vaillants guerriers de David. Ensuite, le texte énumère les noms des chefs de tribu, ce qui montre une fois encore le souci de l'auteur de présenter l'ensemble de la nation unie en tant que tout Israël. Il commence à passer en revue les tribus une à une et arrive à celle de Lévi. Je lis le verset. Pour Lévi, c'était Hachabia, pour Aaron, Tsadok. Verset 17. Les Lévites avaient leur chef à l'exemple de leurs frères. Cependant, parmi eux, les prêtres descendants d'Aaron et de rang supérieur étaient soumis à l'autorité du grand prêtre. Ici, c'est Tsadok, qui était également le chef spirituel de tout Israël. Le nombre de chefs est bien de 12. Mais le compte n'y est pas. En effet, la tribu de Manassé étant de chaque côté du Jourdain, elle en avait deux, les Lévites également. Cette liste concerne 11 tribus. Il en manque donc deux, celle de Aser et de Gad. La première a certainement été incorporée aux tribus de Zabulon et de Nephtali, et la deuxième absorbée par celle de Ruben et Manassé. Je continue plus loin. Le texte. David ne comptait pas dans le dénombrement les moins de 20 ans car l'Éternel avait promis de rendre Israël aussi nombreux que les étoiles du ciel. Joab avait commencé le recensement, mais il ne l'acheva pas. D'ailleurs, à cause de ce recensement, l'Éternel se mit en colère contre Israël. C'est pourquoi les chiffres de ce recensement n'ont pas été reportés dans les annales du roi David. Versets 23 à 24. David n'a fait recenser que les hommes âgés de plus de 20 ans, c'est-à-dire ceux aptes à combattre. Par sa remarque, le chroniqueur essaye d'arrondir les angles. La population totale, hommes, femmes et enfants, n'intéressait pas le roi parce qu'il avait des projets de conquête à l'esprit. Cependant, cette conscription n'a pas été terminée. En effet, la tribu guerrière de Benjamin n'est pas comptabilisée. Ceci dit, d'après l'auteur, David croyait que l'Éternel bénirait le peuple comme il l'avait promis à Abraham, ce qui est certainement exact. Il n'empêche que le roi s'est rendu coupable d'une faute grave en dénombrant Israël et toute la nation fut jugée. Le chapitre continue ensuite avec une liste des officiels du roi. D'abord les responsables des trésors, suivis des noms des intendants de tous les biens de David, ceux qui avaient la charge des ouvriers agricoles, des vignobles, des réserves de vin, des plantations d'oliviers et de sycomores, des réserves d'huile, des troupeaux de bétail, de chameaux, des ânesses, des moutons et des chèvres. Le chapitre se termine avec les noms des conseillers privés du roi. D'après un texte parallèle, on sait que l'un d'entre eux a trahi David, mais le chroniqueur passe cet incident sous silence, car il évite autant que possible de rapporter les événements fâcheux de son règne. Le chapitre 28, l'avant-dernier de ce livre, commence à nous faire part des dernières recommandations de David au chef d'Israël et à son fils Salomon. Le vieux roi est maintenant au soir de sa vie. Je commence à le lire. David rassembla à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions au service du roi, les commandants des milliers et des centaines, les administrateurs des biens et du cheptel du roi et de ses fils, les hauts fonctionnaires du palais royal, les guerriers et tous les hommes de valeur. Verset 1. Tous les personnages qui dirigent le pays et dont il a été question précédemment sont maintenant rassemblés devant le roi pour une cérémonie publique d'investiture. David va désigner son successeur. Je continue. Le roi David se mit debout et leur fit ce discours. « Mes frères et mon peuple, écoutez-moi. J'avais à cœur de bâtir un temple pour y faire reposer le coffre de l'Alliance de l'Éternel et le marchepied de notre Dieu. J'ai fait des préparatifs en vue de la construction. » Verset 2. Le marchepied est le couvercle du coffre sacré. Il s'appelle en réalité le propitiatoire parce que c'est sur lui que le grand prêtre mettait du sang d'animaux lors de la fête solennelle du Yom Kippour, le grand jour des expiations dans le calendrier religieux juif. Selon un texte parallèle, David n'était pas en bonne santé à la fin de sa vie. Néanmoins, il fait l'effort de se tenir debout pour délivrer ce dernier message de son règne qui joue un peu le rôle de testament. Il parle de ce qui lui tient le plus à cœur, c'est-à-dire la construction du temple en vue duquel il a fait tous les préparatifs relatés précédemment. En plus, David a parfaitement bien organisé son royaume, ce qui va grandement faciliter la tâche à son successeur. Je continue le texte plus loin. « L'Éternel m'a donné beaucoup de fils. Parmi eux tous, il a choisi Salomon pour le faire siéger sur le trône de la royauté de l'Éternel sur Israël. Puis il m'a déclaré, « C'est ton fils Salomon qui bâtira mon temple et mes parvis, car je l'ai choisi pour qu'il soit mon fils et je serai moi-même un père pour lui. » Versets 5 et 6. Selon le point de vue du chroniqueur, David était le représentant de l'Éternel, son régent en quelque sorte. Maintenant, c'est Salomon qui va jouer ce rôle. Il est son régent et exerce la royauté sur terre à la place et pour le compte de Dieu. Il faut en effet garder à l'esprit qu'Israël avait la charge spirituelle de représenter et de faire connaître le Seigneur aux autres peuples. Je continue le texte. « Je maintiendrai pour toujours sa royauté. S'il met son énergie, comme il le fait aujourd'hui, à obéir à mes commandements et à mes lois. » Verset 7. Salomon a été choisi comme roi dans le but de construire le temple de l'Éternel. Cependant, la dynastie de David se maintiendra au pouvoir à condition que Salomon et ses descendants respectent la loi de Moïse. Leur obéissance sera le garant de la promesse faite par l'Éternel à David, comme quoi il aura toujours quelqu'un de sa lignée sur le trône. On connaît la suite. Les Israélites sont devenus pire idolâtres que les Cananéens. Leur pays a été conquis et ils ont pris le chemin de l'exil. Cependant, des siècles plus tard, à Bethléem, naissait le Messie, un descendant direct de la dynastie de David. Et un jour, il reviendra pour établir le millénium, son royaume sur terre. Moi, j'ai hâte que ce jour se réalise.
Durant cette pause musicale, vous avez entendu le groupe Dixit chanter un de ses chants intitulé « Espérance ». Si cette étude vous a interpellé, si vous souhaitez recevoir une Bible gratuite ou une copie du texte de ce jour, il vous suffit de téléphoner au 0820 200 628. C'est un numéro Indigo. 0820 200 628.
Ou bien connectez-vous sur notre site internet chemindevie.info. Chemins au pluriel et le tout attaché, chemindevie.info. Nous vous souhaitons un excellent week-end et espérons vous retrouver lundi à la même heure.
Restez bien à l'écoute de la suite de nos programmes. À lundi.